France Culture.
...12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il revisite la légende arthurienne en mode absurde depuis plus de 20 ans maintenant. Le film Kaamelott, deuxième volet, première partie, sort demain sur les écrans. Alexandre Astier, l'invité des midis, à partir de 13h. Mais tout de suite, place à la critique. Aujourd'hui, la littérature américaine est à l'honneur avec le nouveau livre de Maggie Nelson, Patemata ou L'histoire de ma bouche, paru aux éditions du Sous-sol. Et puis, Note à John chez Grasset, c'est un inédit posthume de Joanne Didion. Vous écoutez les midis de culture, allez, en voiture. Et ils embarquent avec nous les critiques du jour. Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture.
Bonjour. Bonjour Marie.
Thomas Stellandre, à nouveau venu, journaliste à Libération. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Je me lève la première pour être seule, et aussi parce que ma mâchoire est trop douloureuse pour que je reste au lit. Tous les matins, c'est comme si ma bouche avait survécu à une guerre. Elle a protesté, s'est cachée, a souffert. Elle a flotté. Ses minuscules points de contact se sont entrechoqués et se sont repoussés. La douleur a envoyé une décharge dans l'articulation avant de s'y concentrer. Plutôt que de se rejoindre, mes dents trouvent des pans de joue qu'elles mastiquent, laissant deux énormes boursouflures dans leur sillage. Je fourre le drap dans ma bouche pour savoir que je suis toujours ici, toujours enracinée dans la croûte terrestre.
Vous venez d'entendre la première page de Patemata ou l'histoire de ma bouche, le nouveau livre de Maggie Nelson, paru aux éditions du Sous-sol et traduit de l'américain par Céline Leroy. Vous l'avez compris, il va s'agir de douleur, la douleur physique d'abord, et le parcours du combattant, de l'autrice pour trouver un médecin qui comprendra son mal et surtout le soulagera. Mais Maggie Nelson part de cette expérience pour interroger les autres souffrances, la perte, le deuil, l'incompréhension, comment trouver les mots pour ces expériences humaines, comment collectivement sonder ces épreuves. L'autrice des Argonautes et de Bleuet avancent par touches, entre quotidien, rêve et réflexion. On commence par quelques mots d'abord, Marie Sorbier.
Bien, c'est un livre qui se présente un peu comme une promesse non tenue. Moi, j'aime beaucoup lire Maggie Nelson. Hein. C'est ici un petit livre, alors pas tant par son nombre de pages que par son déploiement. En fait, j'avais simplement envie de lire le livre qu'elle annonçait, c'est-à-dire le rôle de la bouche dans la vie d'un écrivain. Cette question, elle est finalement pas abordée de front. Le sujet du livre, c'est beaucoup plus la douleur que la bouche dans la vie de l'écrivain. On y reviendra. Mais quand même, il faut lui reconnaître qu'elle parvient malgré tout à atteindre des morceaux de réel. Et quand elle y parvient, c'est très beau.
Thomas Stellandre.
Alors effectivement, Maggie Nelson chronique hein, sa propre douleur, sa douleur à la bouche, à la mâchoire, et ce qui pourrait sembler un peu anecdotique au départ, c'est-à-dire on pourrait se dire oui, en effet, c'est plutôt un petit Maggie Nelson. En fait, à la lecture et après la lecture, je me suis dit bah non, en fait, ça me reste. Il y a des réflexions qui me restent. Et moi, j'aime quand elle est comme ça, poète. Ça me renvoie à Bleuet. Ça me renvoie à quelque chose de brillant avec des trous. Moi, je l'adore quand elle est comme ça dans cette écriture du fragment. Et puis deux choses que je voudrais dire, c'est que c'est un livre qui pour moi est vraiment un livre de la colère. On voit une écrivaine énervée, et ça, je trouve ça super. Qu'est-ce qu'on fait de la colère? Et puis l'autre truc, c'est que sur un sujet qui est a priori pas particulièrement riant, c'est-à-dire une douleur insoutenable à la bouche, je trouve qu'elle fait un livre très drôle.
Alors, Marie Sorbier, déjà, on rend hommage à Maggie Nelson, qui est importante pour vous.
Tout à fait. Et puis, c'est vrai, vous parliez de Bleuet. Ce livre se rapproche peut-être fort de Bleuet, notamment par la taille, mais aussi par cette écriture en fragments et en paragraphes. Là, ils ne sont pas numérotés, hein, il me semble, non. Les paragraphes, alors qu'elle a pu le faire dans d'autres. Mais elle arrive à tisser, comme je crois personne dans les écrivains contemporains, ce rapport dans la langue entre le rêve et la réalité. Dans ce livre-là, c'est particulièrement réussi, je trouve, parce qu'on n'a même plus les phrases de transition qui pourraient nous faire croire qu'on est dans un rêve. C'est au lecteur de faire le lien, c'est au lecteur de décider d'ailleurs, finalement, si c'est du rêve et de la réalité. Elle lit, elle mixe, elle fond tout ça. Et alors, pour le coup, sur ce registre de langage-là, et sur la langue, et sur la forme, encore une fois, c'est un livre très réussi. Je trouve qu'elle s'empare des pages, je vais commencer par la forme, tiens, pour une fois. Mm-hmm. Elle s'empare des pages de façon magistrale. Elle fait sienne, en fait, la page du livre. J'entends très concrètement, elle a des paragraphes de tout toutes les tailles. Parfois, ça ressemble à des haïkus qui sont magnifiques. Et là, je suis d'accord avec Thomas, ça reste parce qu'elle a quand même des formules très choc, en fait, des formules qui s'incrustent dans le cerveau profondément. C'est pas des punchlines, c'est pas des jolies phrases qu'on a envie de répéter. C'est quelque chose qui s'incruste. Alors ça, évidemment, on le retrouve dans toute son œuvre et dans celui-ci aussi. Mais en fait, je crois que c'est vraiment une histoire de quatrième de couverture ou de résumé. C'est une erreur toujours de lire ça, mais quand on lit la quatrième ou le résumé, je me dis ah, incroyable, elle va faire un lien entre le physique, la bouche et son travail d'écrivain. Et c'est ça que j'ai pas tout à fait retrouvé. Alors qu'en fait, son projet, il n'est pas là. Son projet, c'est de parler de la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. Et en ça, là, pour le coup, le livre est réussi. Mais il y a toujours cette petite déception de la promesse non tenue.
Mais comment elle fait ce lien, justement, entre, comme vous disiez, Thomas, une expérience intime et un peu anecdotique avec quelque chose de plus collectif, plus universel?
Oui, pour réagir d'abord à ce que à ce que dit Marie, moi je trouve que effectivement Maggie Nelson souvent elle avance un peu comme ça au fur et à mesure et je crois qu'elle sait pas exactement elle-même ce qu'elle veut faire. Et il y a un passage, je trouve le livre très drôle, où elle se retrouve à côté d'un écrivain comme ça et elle essaie de lui expliquer ce qu'elle est en train de faire. Oui, je suis en train de faire un livre sur ma bouche, sur ma douleur, etc. Et en fait, elle s'entend en parler et d'un coup, le livre n'a plus l'air de ressembler à rien du tout. Et donc, je vous lis ce passage. Dans l'intimité de mon esprit, l'idée avait paru potentiellement intéressante. Dans sa bouche, donc dans la bouche de l'écrivain, dans ce restaurant animé, on dirait l'histoire d'une mère poil à gratter qui brandit son tampon à récurer. Enfin, elle a vraiment un côté où effectivement, elle ne sait pas exactement où elle va et elle fait comme ça son miel finalement de toutes ces choses. Elle emprunte à la philosophie, elle emprunte à la psychanalyse, elle cite. Il y a comme ça des passages qui sont effectivement, à mon avis, saisissants et elle avance vers quelque chose d'universel pour moi parce que ça résonne, quoi. Moi, je veux dire, cette douleur, la douleur qui est la sienne, ce parcours, cette colère, résonne avec celle qu'on ressent nous. Et puis, je voulais revenir, voilà, sur la colère, encore une fois. On a lu les premiers mots du livre et déjà, on entend, en fait, ce dont il va être question dans le livre, c'est-à-dire Maggie Nelson est complètement dans le dévoilement et elle ouvre la bouche, littéralement, et comme si elle était chez le dentiste, et elle nous dit, voilà, d'entrée, mais elle nous parle de ses dents, elle nous parle de ses pans de joues qu'elle mastique, des boursouflures, elle nous dit qu'elle fourre le drap dans sa bouche, elle nous parle de la croûte terrestre. Et voilà, d'entrée, on est quand même là-dedans, c'est-à-dire dans la croûte. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus littéraire, de plus poétique au départ. Et donc ça, on l'a lu dans la traduction de Céline Leroy, mais vraiment en anglais, c'est « the crust ». Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la croûte, et c'est vraiment comment est-ce qu'on va gratter. Maggie Nelson, elle fait ça. Elle gratte, en fait, et plus elle gratte, et plus je trouve que précisément, elle atteint l'universel.
Marie Sorbier.
Oui, peut-être un mot sur le titre, parce que ça va nous renseigner sur ce qu'on est en train de dire. Pathemata, c'est un bout d'un proverbe grec, hein, pathemata, mathemata, qu'on peut traduire par souffrance et apprentissage, qui voudrait dire que c'est dans la douleur qu'on apprend. Et pour ça, elle a une page, alors, pour le coup, magnifique, qui est celle que je retiendrai de ce livre. Et c'est les deux dernières pages. Alors, je divulgage pas, hein, parce qu'il n'y a pas une narration qui fait que ça dévoilerait quelque chose. Mais elle raconte que pendant son accouchement, l'infirmière lui disait profiter du temps entre deux contractions. Parce que vous avez mal avant, vous avez plus mal, puis vous avez mal après, et il faut profiter de ce temps-là. Et donc, elle dit qu'elle n'y est jamais arrivée, évidemment, parce qu'elle ressentait le reste de la contraction d'avant, et puis elle avait peur de la contraction à venir. Mais finalement, elle raconte que tout son projet, je pense que le projet du livre est là, c'est-à-dire de s'intéresser à cet interstice entre deux douleurs et que c'est peut-être là qu'elle a quelque chose à dire. Et c'est par ces fulgurances-là, elle a quand même des saillances incroyables, Maggie Nelson, et même dans ce livre, même si je le trouve un peu frustrant, il y a ces passages-là et qui justifient, j'allais dire, presque à eux seuls l'intérêt du livre.
Mais au-delà du fait que ça ne parle pas finalement, comme vous l'auriez espéré, de la bouche de l'écrivain, où sont les frustrations que vous avez ressenties ?
Les frustrations, elles sont peut-être dans son format. Moi, j'avais envie que ça... J'avais l'impression, quand je l'ai eu fini, il fait 70 pages, hein, quand je dis c'est court, c'est vraiment court, qu'en fait, on venait de commencer. J'avais envie d'en avoir plus, en fait. La frustration, c'est vraiment ça. Je me suis dit, mais j'aurais pu la lire encore sur des centaines de pages. Elle choisit de me frustrer. Je crois que c'est un choix conscient de sa part. Elle frustre son lecteur. Mais ce qu'elle, quand même, elle arrive à dire... mais que j'aurais aimé encore développer, je vous cite deux phrases. Pour Nelson, en fait, dans ce livre-là, la douleur fait partie de l'identité. En tout cas, c'est ça qu'on retient. C'est-à-dire qu'elle écrit, par exemple, page 40, « Parfois, je me demande à quoi j'aurais pensé pendant toutes ces années si je n'avais pas autant pensé à la douleur. » Donc la douleur, on comprend bien, remplit complètement sa vie. Puis, quand elle raconte la mort de son amie, elle écrit « La façon dont C me connaissait est morte, désormais, je serai moins aimée, moins connue. Donc, quand elle parle de la douleur physique ou psychologique, en fait, tout ça est intrinsèquement lié à son moi profond. C'est là, je trouve, que le livre s'accomplit. Mais c'est là que naît ma frustration, parce que j'avais envie d'en avoir plus.
Thomas Stélandre.
Oui, quand Marie cite C, cette fameuse C, en fait, c'est Christina Corby, c'était une amie de Maggie Nelson qui, en fait, a eu à la suite d'un accident de vélo, s'est retrouvée tétraplégique et elle est morte en 2021. Il en a été question dans Bleuet, il en a été question dans quelque chose de brillant avec des trous. Et il y a comme ça, chez Maggie Nelson, ce ressassement finalement, cette manière d'y revenir et d'essayer de prendre le deuil, la tristesse, la souffrance de plein de manières différentes, un peu comme un Rubik's Cube et de se dire là je vais regarder une autre face. Il y a quelque chose de fascinant aussi chez elle, qui pareil à mon avis fait un petit peu le lien entre tous, c'est la relation à la couleur. Et je disais, pour moi, c'est un livre qui est rouge colère, là où quelque chose de brillant avec des trous, sa couverture, si vous vous souvenez, était jaune, bleu, c'est plutôt un livre bleu. Et c'est comment, à travers toutes ces nuances, est-ce qu'on va pouvoir essayer de mieux se comprendre et d'essayer d'aborder un petit peu différemment, la tristesse, la douleur, la souffrance. Et elle disait de mémoire, dans Bleuet, il y avait un des fragments, elle disait « Peut-être qu'ainsi, avec le temps, tu finiras par ne plus me manquer. » Enfin voilà, quelque chose comme ça. Et cette tentative presque d'épuisement aussi du sujet, c'est quelque chose que je trouve très beau. Parce qu'on dit Maggie Nelson, où est-ce qu'on la situe? Déjà, évidemment, il faudrait pas la ranger dans une case ou une autre, mais est-ce qu'elle est essayiste? Est-ce qu'elle est poétesse? Est-ce qu'elle est philosophe? On pourrait considérer. Je crois que d'abord, c'est quelqu'un qui travaille la matière poétique et qui le fait admirablement. Moi, je me dis, quelle chance de vivre à un moment où on peut avoir des livres de Maggie Nelson qui arrivent comme ça et qui nous éclairent de cette manière.
Il nous éclaire de quelle façon, justement? Il nous aide, pour vous, Thomas?
Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment aide à vivre et vraiment, a fortiori, en ce moment où on est quand même tous, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même difficile d'avancer un jour après l'autre. On est tous un peu en colère, on ne sait pas très bien pourquoi, parfois on sait très bien pourquoi. Et on a quelqu'un qui fait quelque chose de la colère. Moi, je trouve que ça c'est admirable, parce que parfois on tourne un peu en rond avec sa colère et elle, elle arrive à en faire des livres. Et elle le dit à plusieurs moments. J'ai jamais été aussi énervée que depuis 2 ans. Je suis énervée, je suis en colère. On peut aussi avec la colère faire des livres, faire pâté matin.
Marie Sorbier.
Et peut-être juste un dernier mot, parce qu'il y a un autre élément de ce livre qu'on n'a pas encore cité, c'est qu'elle l'écrit pendant la pandémie, pendant le Covid. Le Covid est très présent dans ce livre-là. Et pour être tout à fait honnête, au début, ça m'a un peu agacée, parce que cette période du Covid, maintenant on retrouve quand même beaucoup dans les livres, puisque les écrivains ont eu le temps d'écrire depuis le Covid. Mais elle en fait quelque chose d'étrange. Il y a quand même une étrangeté dans ce livre-là. Et le fond Covid, c'est-à-dire qu'elle participe à plein de rencontres. Elle est universitaire aussi, donc elle donne des cours, enfin tout ça. Elle explique à chaque fois, elle est masquée. Donc évidemment, le masque renvoie à la bouche et à sa douleur. Mais ce fond Covid ajoute une étrangeté au livre qui est en miroir avec l'étrangeté du monde. C'est ce que vous étiez en train de dire, Thomas. Et pour une fois, je trouve que cet arrière-fond, arrière-goût de Covid avait un sens littéraire.
Mmh. Un dernier mot, Thomas?
Oui, peut-être pour revenir sur l'étrangeté, pour vraiment il faut avoir à l'esprit que c'est un livre qui vraiment oscille entre rêve et réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on est en fragments et donc Maggie Nelson nous raconte ou des anecdotes, des choses qu'elle a vécues, ou des rêves. Mais quand on commence un fragment, on ne sait pas que ce sera un rêve, précisément. Donc en fait, d'un coup, le fragment commence, je suis dans un restaurant, etc., il se passe quelque chose, et d'un coup, il y a quelque chose qui est très curieux, et on se dit, ce n'est peut-être pas la réalité. Finalement, c'est peut-être un rêve. Et voilà, on est comme ça, toujours en permanence, entre veille et sommeil, entre rêve et réalité, et ça donne une impression de lecture très, très curieuse, mais moi j'adore.
Sur une traduction très réussie, et comme d'habitude, puisque elle traduit Maggie Nelson depuis longtemps, de Céline Leroy, ouais. Pâté matin ou l'histoire de ma bouche, apparu le 18 août dernier aux éditions du Sous-sol.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec ce texte singulier, Note à John, de Joanne Didion. Je dis singulier, certains aux États-Unis, lors de sa parution, l'ont trouvé même clairement problématique. Il s'agit en fait d'un journal de thérapie de l'essayiste et journaliste américaine morte en 2021. Un document que ses ayants droit ont trouvé après la mort de Didion et pour lequel elle n'avait laissé aucune directive. Elle y décrit ses séances chez un psy entre 1999 et 2003, séances qui portent beaucoup sur la fille de Didion, dépressive, alcoolique, malheureuse, et qui révèlent en creux l'extrême fragilité de la mère qu'elle était. On commence par un avis rapide en quelques mots, Thomas Stélandre.
Oui, alors c'est effectivement un objet, disons, assez curieux, parce que on se dit, est-ce que j'ai bien le droit de lire ça, en fait? C'est-à-dire que c'est expliqué en avant-propos, le livre a été retrouvé à la mort de John Didion en 2021 dans son bureau. C'était un ensemble, voilà, des feuillets où on avait des comptes rendus de séances de psy adressés donc à son mari. Il y a cette question éthique. Est-ce qu'il faut lire? Est-ce qu'il faut pas lire? Bon, moi, je suis enchanté d'avoir un nouveau texte de John Didion qui tombe du ciel comme ça. Bah, je trouve que ce livre, c'est l'intelligence à l'œuvre, hein. Et c'est l'intelligence à l'œuvre, j'allais dire, de part et d'autre. Parce que c'est l'intelligence de John Didion, et ça, on la connaît, mais c'est aussi l'intelligence de son psychiatre, Roger Mackinson, qui est un psychiatre fameux, et voilà, c'est merveilleux à lire. C'est, je dirais, délicieux, on peut dire ça.
Délicieux. Marie Sorbier.
C'est un livre qui pose plein de questions, notamment sur notre regard de lecteur, bien sûr, hein, cette impression. Moi, j'ai eu quand même l'impression de, vous savez, d'ouvrir le journal intime d'un proche. Joanne Didion, elle est importante pour moi. Je me souviens, quand j'étais plus jeune et que j'étudiais la littérature et le journalisme, ses chroniques, Joanne Didion en tant que journaliste, je trouvais que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux. Elle racontait l'Amérique en disant « je » et elle se servait d'elle pour parler du monde. Je me suis dit, on pourra pas surpasser ça. C'était vraiment, pour moi, la forme ultime de ce qu'on pouvait faire en tant que journaliste. Donc, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu l'impression de pas avoir le droit. J'avais une espèce de pudeur. Donc, franchement, les premières pages ont été difficiles. Mais force est de constater que c'est quand même une source d'éclaircissement sur son œuvre importante.
On va écouter tout de suite un passage de Note à John de Joanne Didion.
Concernant l'arrêt du Zoloft, j'ai dit au docteur McKinnon qu'une heure après l'avoir pris, j'avais eu l'impression de perdre mon principe organisateur. Un peu comme quand on boit un planteur avant le déjeuner, sous les tropiques. J'avais essayé d'y réfléchir, posément, parce que je savais bien que ça ne tenait pas debout, puisque les précautions d'emploi précisent que même le double de cette dose n'agit pas avant plusieurs heures, et que l'effet maximal est atteint au bout de 3 à 5 jours de prise régulière. J'ai réalisé que je me fais une idée étroitement calibrée de mon bien-être physique, que j'ai très peur de perdre le contrôle, et que ma personnalité s'organise autour d'un certain niveau de mobilisation ou d'anxiété.
Note à John de Joanne Didion chez Grasset, traduit de l'anglais par José Camoun. Thomas Stellandre, vous avez réglé assez vite cette idée qu'il fallait le lire, mais on l'entend ici, c'est un document très particulier, en tout cas sur l'écriture de Joanne Didion, on n'est pas au même niveau que ses précédents livres et que ses chroniques dont parlait Marie.
Ouais, faut peut-être resituer en fait dans la chronologie John Didion. Ce livre, c'est un livre qui est donc écrit en 2000-2001, à un moment donc de crise. John Didion va voir un psychiatre. Sa fille va très mal. Et en fait, peut-être dire que John Didion, on l'a connu en France avec l'année de la pensée magique. C'était en 2007 et c'était vraiment, voilà, un moment, une consécration pour elle. Aux États-Unis, elle était déjà très fameuse. En fait, elle est connue depuis, les années 60, à travers effectivement son travail de journaliste, son travail de scénariste, une figure intellectuelle de premier plan. Mais d'un coup, l'année de la pensée magique, c'était le récit qui suivait la mort de, l'année qui a suivi la mort de son mari John Gregory Dunne, et elle faisait comme ça le récit de cette pensée magique. C'était un moment extrêmement fort. Le livre s'ouvrait, je me souviens de la manière suivante, des phrases, quand on les a lues, on les oublie pas. C'était « La vie change vite, la vie change dans l'instant. On s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît s'arrête. La question de l'apitoiement. » Et voilà, moi j'ai découvert en fait John Didion à ce moment-là, et ces phrases-là, elles continuent à résonner et elles contiennent en fait tout Didion, c'est-à-dire le refus des apprêts, cette espèce de d'acuité du regard, cette sécheresse aussi peut-être. Donc ça a été un texte important. Et puis après, il y a eu Le Bleu de la Nuit. Le Bleu de la Nuit, il se trouve qu'au moment de la mort de son mari, John Gregory Dunne, la fille adoptive de John Didion, Quintana, était dans le coma. Et elle est morte peu de temps après. Et donc, il y a eu un livre après, en 2013, paru en 2013 en France, Le Bleu de la Nuit, où on retrouvait, pour le coup, voilà, cette même réflexion sur le deuil, mais appliquée à sa fille, et puis une réflexion aussi sur l'éducation, etc. Donc en fait, c'est deux livres immenses, extrêmement importants. Note à John, donc, le livre dont on parle aujourd'hui, il a été écrit évidemment bien avant, un moment où John est vivant, où Quintana est vivante. Et dans une certaine mesure, c'est là où on le lit, c'est que ça prépare en fait, ces deux livres-là.
Marie.
Oui, moi je me suis donc demandé si j'avais droit de le lire ou pas, et puis finalement je me suis souvenue de deux éléments biographiques qui m'ont dédouanée, et donc je me suis dit c'est bon, je peux continuer. Je sais pas si vous vous souvenez, dans son livre White Album, l'album blanc, elle commence son livre et en publiant le diagnostic de son psy, parce qu'à ce moment-là, là on est dans les années, on est autour de 68, elle ne va pas bien, elle a plein de malaises, et donc elle finit par écrire un reportage sur l'Amérique, puisque c'est ça, White Album, et en prenant pour point de départ son état mental à elle, et en disant voilà, si je ne vais pas bien, c'est peut-être pour ça que l'Amérique va pas bien, ou inversement. En tout cas, elle se prend comme témoin du mal-être de l'Amérique des années 68, et puis voilà, après il va se passer ce qui va se passer. Donc je me suis dit finalement, elle avait déjà quelque part accepté qu'un diagnostic de psy soit publié. Alors certes, elle l'avait décidé elle-même, on l'avait pas décidé à sa place, mais quand même. Et deuxième chose, je me suis souvenue de cette histoire terrible que vous voyez la caravane d'honneur, hein, c'est pionniers à la fin du 19e siècle qui ont traversé les États-Unis pour conquérir l'Ouest. Et il y a une des caravanes qui s'est perdue dans la montagne. Ils sont restés 4 mois dans la montagne et pour survivre, ils ont mangé les cadavres. C'est un fait divers vraiment qui parcourt l'histoire des États-Unis. Et bien, dans cette caravane d'honneur, il y avait la grand-mère de John Didion. Elle en parle beaucoup dans ses articles comme un trauma. Et elle dit cette phrase que sa grand-mère lui a dite, « Je ne t'ai pas tout raconté, mais suffisamment pour que tu saches ce qu'est le malheur. » Et en fait, je me suis dit, mais tout est là. C'est-à-dire qu'il y a tout Didion là-dedans. Il y a une retenue, une pudeur, mais malgré la pudeur et la retenue, et en effet une certaine froideur, la volonté quand même de raconter avec une économie de mots et d'effets. Et je trouve que c'est exactement ce qu'on retrouve dans Note à John, et c'est pour ça que c'est un livre important pour son œuvre d'éclaircissement. C'est que même quand elle n'écrit pas pour être publiée, ce qui est le cas, ses notes avaient aucune destination à part être dans son tiroir, eh bien, on reconnaît toute la patte de John Didion qui n'appartient qu'à elle. C'est quand même une écrivaine avec un style très particulier. Je parlais du journalisme, mais littérairement, elle a une phrase pas vraiment qu'à elle. Elle a une musique particulière. C'est ramassé, c'est sec, c'est froid, mais c'est en même temps très puissant. Et je me suis dit que finalement, ces deux éléments biographiques justifiaient le fait qu'on puisse lire ces notes qui sont non seulement une brèche dans sa psyché pour comprendre ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire. Et donc ça, pour un exégèse, ou pour, en tout cas pour quelqu'un qui connaît un peu l'œuvre de John Didion, je me dis, si on ne l'a jamais lu, c'est peut-être compliqué de commencer par
peut-être
ce livre-là.
Peut-être une drôle de porte d'entrée.
Voilà.
Peut-être.
Bon, mais en tout cas, pour ceux qui l'aiment et qui l'ont lu, c'est magnifique. La mécanique de l'écriture et d'où vient une phrase, en fait ? Comment on écrit ce qu'on écrit ? Est-ce que notre style correspond à notre psyché ? J'ai trouvé là des réponses que j'avais lues nulle part ailleurs, donc c'est vraiment ça qui m'a intéressée.
Donc quand on appelle ça note, on est loin de la note, on est là dans quand même un travail... un travail littéraire important, Thomas.
Oui, je peux vous dire que nos notes dans nos téléphones ne sont pas, non, sont un petit peu moins littéraires. Bien sûr, je voudrais réagir à ce que dit Marie sur la manière dont c'est un livre qui nous éclaire sur John Didion, mais qui nous éclaire vraiment sur la phrase de John Didion. Et ça, c'est super. Là, par exemple, on est à la fin de la toute première séance qui est rapportée dans le livre, et il lui dit en fait, son psy lui dit. Quelle qu'en soit la raison, vous avez grandi en vous attendant au pire. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il arrive des choses bien. Vous avez grandi sans le gêne du déni. Et en fait, je me dis, bah voilà, en fait, la littérature de John Didion, elle est là. C'est-à-dire une littérature qui n'a pas de déni. On dit les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est désarmant, en fait. C'est extrêmement troublant. John Didion, elle a inspiré, voilà, toute une génération d'auteurs, d'autrices. Les Bret Easton Ellis, les Jay McInerney, Donat Hart, etc. Avec cette phrase-là, c'est-à-dire cette phrase comme ça, sèche. Et d'un autre côté, je me dis, oui, bien sûr, il y a cette sécheresse, etc. Mais ce que ça nous révèle aussi, c'est, enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, moi, à la lecture, c'est une John Didion plus tendre, en fait, qu'attendue.
Oui, maternelle, en fait.
Maternelle, ou en tout cas, dans un doute et en demande de conseils. Moi, je ne l'imaginais pas comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, on a quand même cette image d'une femme dure, inflexible, qui nous dit dans Le Bleu de la Nuit, « J'ai encore suffisamment forte pour vous raconter une histoire vraie. » Et bien là, on a quelqu'un qui va chez un psy dans un moment de doute et qui, voilà, se montre... pas sûre d'elle.
Alors je voudrais revenir juste, Marie, je vous donne la parole juste après, mais sur ce que vous disiez sur l'intelligence. Vous disiez, ah, qu'est-ce qu'ils sont intelligents, Johan Hunion, mais son psy aussi.
Ah bah oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre un peu aussi sur les absents, c'est-à-dire qu'il est adressé donc à John, le mari. Donc il y a une sorte de tu comme ça qui est un peu mystérieux. Elle lui dit oui, quand tu avais fait ça, donc ça c'est le mari. Et puis il y a le psy, et le psy qui est cité donc par John Didion, et on se dit mais quelle acuité, quelle intelligence. Et quand on voit ces deux personnes qui discutent, je me disais, bah voilà, enfin franchement, c'est tellement merveilleux d'avoir des gens qui savent tellement bien analyser les choses, percevoir, voir les rouages. Et ce qui est un peu, pour finir sur une note un peu plus triste, c'est qu'on se dit aussi, bah c'est un peu les limites de l'intelligence, parce que Quintana... voilà, n'a pas été sauvé, parce que John Didion n'a pas réussi. Enfin, ça lui a fait beaucoup de bien, cette séance, elle le dit elle-même. Mais bon, la suite était vraiment très, très dure. Donc, on se dit, ben, c'est aussi un livre sur les limites, presque, de l'intelligence.
Marie Sorbier.
Oui, moi, en lisant, je ne crois pas, en fait, que ce livre soit adressé à John, contrairement à ce que le titre dit. Alors, en effet, il y a ce tu qui apparaît, tu très beau, d'ailleurs. Les comptes rendus, c'est quelques pages, hein. C'est, je sais pas, disons 3-4 pages, 4-5 pages, parfois. Donc, c'est assez condensé, dans lequel elle raconte, oui, l'élément principal de la séance, en citant son psy. Et je suis d'accord avec vous, Thomas, moi, ce psy, j'aurais bien aimé l'avoir, parce qu'il est vraiment incroyable d'intelligence et de bienveillance. Il y a une bienveillance globale, voilà, c'est assez merveilleux. Mais donc, je ne suis pas sûre qu'elle s'adresse réellement à lui. J'ai l'impression que pour elle, c'est une béquille, une cheville pour écrire, et qu'en fait, ses notes, elles sont adressées à elle-même, et c'est encore pour ça qu'il y avait une aura de pudeur et d'intimité énorme dans ses textes. Je crois que pour elle, en tout cas, j'ai eu l'impression que ça faisait partie de la cure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle sortait de son psy, on l'imagine arriver devant son bureau, puis essayer de se concentrer, de savoir ce qui s'était dit, de citer ce qu'elle cite entre guillemets le psy, donc de se souvenir des phrases, de comment elle a écrit. Et moi, j'y ai vu vraiment un processus qui poursuivait la séance, ou en tout cas qui faisait des traits d'union entre les différentes séances. Mais je ne suis pas sûre que le mari ait grand-chose à voir là-dedans. Et un autre petite chose que je me suis rendu compte en lisant, mais alors que je lis John Didion depuis longtemps, c'est qu'en fait, on dit John Didion, son mari s'appelle John, et en fait, un des problèmes de sa fille qu'elle rapporte dans les séances, c'est qu'elle estime que ses parents, John et John, sont fusionnels, et qu'on n'arrive pas à les dissocier. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, bah oui, c'est le même prénom.
Ah oui, quand il y a des initiales, c'est IGD et JDD.
Note à John de John Didion, c'est chez Grasset, sur une traduction de l'anglais par José Camoun, Marie Sorbier, Thomas Seland. Merci beaucoup d'être venu dans les midis aujourd'hui pour parler littérature. Merci également à Oriane Delacroix et Lise Ripoche pour les lectures du jour. Et vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Toutes les références sont sur la page des Midis de Culture.